Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Mesdames et messieurs, de retour dans votre émission RSE pour cette deuxième partie consacrée à la RSE en Afrique, notamment l'entreprise africaine face aux grandes transformations durables. Toujours avec notre invité, M. Modibo Makalou. La RSE ne se limite plus à quelques actions sociales. Elle transforme désormais les modèles économiques, les modes de production, les investissements et même la compétitivité des entreprises. Comment l'Afrique peut-elle transformer ces mutations en opportunités? Monsieur Makalou, merci encore de nous servir aujourd'hui d'expert tout au long de ces trois parties concernant la RSE et son évolution en Afrique.
Je vous en prie.
Alors, quels secteurs économiques connaissent aujourd'hui les transformations RSE, à votre avis, les plus importantes en Afrique?
Ben, écoutez, c'est difficile à définir, mais vous savez que les énergies fossiles, le secteur des ressources minérales est un secteur qui, quand même, fait face à de nombreux défis environnementaux. Mais le cadre réglementaire, et comment le mettre en œuvre, comment faire le suivi et l'évaluation, et c'est cela qui pose problème. Donc, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de difficultés par rapport à cela, à définir d'abord des objectifs réglementaires, c'est-à-dire à définir, à élaborer des lois, des réglementations en place. Et je pense quand même que, par contre, dans le cadre de l'économie verte, excusez-moi, certaines organisations d'intégration régionale comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont quand même en train de faire de la promotion de l'économie verte. Et je pense qu'il faut encourager cela. Il faut encourager cela. Mais comme je l'ai dit, vous savez, c'est les pays qui sont dépendants des énergies fossiles et des ressources minérales. Évidemment, dépendent de ces ressources et évidemment le cadre environnemental et les budgets affectés aux départements environnementaux ne sont pas à hauteur de souhait, donc ne permettent pas vraiment de relever ce défi. Non seulement en termes d'élaboration des politiques en matière d'environnement, leur mise en œuvre et puis leur suivi et évaluation.
Et aujourd'hui, comment la transition énergétique redessine-t-elle les stratégies des entreprises africaines?
Ben c'est un défi parce que la plupart des entreprises, et vous savez que pratiquement tous les trois mois, on découvre des nouvelles énergies fossiles en Afrique et qui constituent des ressources budgétaires considérables. Et en même temps, je vous l'ai dit plus tôt, nous ne sommes responsables que très peu pour les émissions de gaz à effet de carbone. Mais malheureusement, on veut nous imposer cette réglementation alors que nous ne sommes pas les plus grands pollueurs. Donc vous voyez que cela peut contraindre nos économies à se fermer et réduire la croissance économique. Mais je pense que, évidemment, les énergies fossiles représentent quand même quelque chose d'important pour nos économies, surtout avec la réduction des marges budgétaires, notamment ce qui concerne l'effet de la dette publique, le poids ou le fardeau même de la dette publique. Donc, je pense qu'il va falloir quand même trouver un compromis par rapport à cela. Comment exploiter ces énergies fossiles et ces ressources minérales sans compromettre l'environnement? Je pense que c'est ce défi auquel les pays et les entreprises africaines doivent faire face en ce moment.
Vous avez parlé d'économie et de manière très précise. La question que j'aimerais vous poser, c'est que l'économie circulaire peut-elle devenir un nouveau moteur industriel pour le continent?
Oui, absolument, parce que qui parle d'énergie, d'économie circulaire, les entreprises, vous le savez, fournissent le capital et le travail. Comment valoriser tout cela? Ces deux éléments indispensables pour l'entreprise, pour l'entrepreneuriat, comportent aussi des difficultés. Le capital, vous le savez, en Afrique, pour qu'un entrepreneur puisse avoir accès au capital, c'est compliqué, c'est cher, c'est indisponible. Si vous prenez par exemple l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le taux de bancarisation, il est à peine à 25%. Donc, vous imaginez, ça c'est le taux de bancarisation strict. Donc, l'accès au capital est assez compliqué. Mais en même temps, la formation, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que cette économie circulaire puisse quand même être plus efficace? Mais écoutez, est-ce que nous sommes en train de renforcer les capacités de nos ressources humaines, de renforcer le capital humain? Les jeunes d'aujourd'hui, l'Afrique a la population la plus jeune de tous les continents, l'âge médian étant de 19 ans en Afrique et de 32 ans dans le reste du monde. Mais malgré tout cela, est-ce que les défis auxquels nous faisons face sur le plan économique par rapport aux énergies fossiles, aux ressources minérales, est-ce que nous sommes en train de former nos ressources humaines pour quand même remonter ces défis pour l'exploitation de ces ressources à bon escient? Bon, je pense que c'est, la réponse est non. Mais évidemment, nous avons fait encore recours à beaucoup d'expertises externes, d'expatriés et autres. Mais je pense que le transfert des compétences, le transfert des connaissances, le renforcement du capital humain est essentiel pour l'Afrique. Parce que, évidemment, avec cette population jeune et cette démographie galopante, il faut transformer ce défi démographique en dividende démographique.
Dividende démographique, aujourd'hui, cette question de l'économie aussi ouvre la fenêtre de la finance durable. Cette finance durable, d'ailleurs, change-t-elle déjà les conditions d'accès aux investissements en Afrique au vu de la situation?
C'est ici aussi que le bât blesse. Les Africains sont ceux qui ont le moins accès à la finance climatique, à la finance durable. Et malheureusement... il y a quand même des opportunités par rapport à tout cela, comment mobiliser des ressources par rapport au financement du développement durable. Mais les Africains sont très peu présents, parce que, évidemment, ce sont des financements innovants qui demandent quand même des efforts par rapport à nos différents pays, mais très peu de pays saisissent ces opportunités. Et donc, ce sont des opportunités gâchées pour l'ensemble de nos pays.
Des opportunités gâchées pour l'ensemble de nos pays, mais aussi l'ensemble de l'actualité dans votre Minute RSE, avant de revenir avec notre invité, M. Modibo Makalou, toujours pour parler de la question de la RSE et de son évolution en Afrique. Tout de suite, la Minute RSE.
L'actualité de cette semaine nous montre une Afrique qui accélère sa transition vers une économie plus responsable. Premier fait marquant, 11 milliards de dollars d'investissements verts ont récemment été mobilisés pour financer des projets d'énergie renouvelable et d'infrastructures durables sur le continent. Une preuve que la finance verte devient un levier majeur du développement africain. Autre chiffre encourageant, l'Afrique a installé 4,5 gigawatts de nouvelles capacités solaires en 2025, soit une progression de 54% en un an. Le Maroc, l'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud figurent parmi les locomotives de cette transition énergétique. Et à l'échelle mondiale, la dynamique est tout aussi forte. En 2025, près de 800 gigawatts de nouvelles capacités d'énergie renouvelable ont été mises en service. Un record historique porté principalement par le solaire. Enfin, une tendance se confirme. La responsabilité sociétale des entreprises ne se limite plus à la protection de l'environnement. Les investisseurs, les consommateurs et les citoyens attendent désormais des entreprises qu'elles démontrent des résultats concrets en matière de gouvernance, d'impact social ou encore de réduction de leur empreinte carbone. La RSE n'est plus un simple engagement, elle devient un véritable moteur de performance, de confiance et de compétitivité.
De retour à nous avec notre invité, M. Makalou Modibo. Je rappelle que la thématique qui en est à sa deuxième partie concerne l'entreprise africaine face aux grandes transformations durables. Tout à l'heure, vous avez parlé donc de la question des finances, entre autres. Mais aujourd'hui, M. Makalou, quel impact les critères ESG ont-ils aujourd'hui sur les entreprises africaines?
Ben écoutez, ça alourdit les charges, c'est l'aspect réglementaire d'abord, mais évidemment... tout cela fait que les défis qui sont déjà là pour mobiliser le capital, recruter les ressources humaines qualifiées et compétentes sont des défis. Mais imaginez même que dans le secteur minier ou dans le secteur pétrolier, l'expertise, comme je viens de le dire, vient en grande partie de l'extérieur de nos différents pays. Si vous mettez les normes environnementales encore, comme je l'ai dit, nous ne sommes responsables que de moins de 3% de ces émissions de gaz à effet de serre, mais c'est nous qui subissons l'effet des changements climatiques, que ce soit la pluviométrie. Vous savez que 90% des agriculteurs africains dépendent de la pluie, de l'agriculture pluviale. Et malgré tout cela, nous n'arrivons pas à maîtriser nos cours d'eau. Et le changement climatique est en train d'affecter ce secteur primaire qui constitue où résident quand même 70% de nos populations. Et ce sont ces populations rurales qui nourrissent les populations urbaines. Donc, si nous n'arrivons pas à nous nourrir, effectivement, l'Afrique importe encore un tiers des denrées alimentaires qu'elle consomme pour 70 milliards de dollars américains, alors que nous avons 65% des terres arables non cultivées dans le monde. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons les bras arides. Mais l'Afrique est le seul continent qui n'arrive pas à se nourrir aujourd'hui. Alors que vous savez, que ce soit la Chine, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a commencé avec la sécurité alimentaire. Donc, et en 2003, à Maputo, les Africains, les chefs d'État africains s'étaient réunis au Mozambique en 2003 et avaient quand même exigé que au moins 10% des ressources budgétaires soient consacrées au développement rural. Mais moins de 20 pays sur les 54 de l'Union africaine respectent ces engagements. Donc, alors que c'est une composante essentielle, parce qu'il faut d'abord commencer à se nourrir pour pouvoir passer quand même aux autres défis économiques, parce que nous dépendons des importations, mais comme vous le voyez, chaque fois qu'il y a des crises, des facteurs géopolitiques et géostratégiques,
tout à fait.
La crise au Moyen-Orient vient de nous montrer, la guerre au Moyen-Orient, où même quand il y a des difficultés, des facteurs géopolitiques en cours, les pays exportateurs peuvent arrêter d'exporter. Et l'Inde, qui est le premier exportateur mondial de riz, à un moment a arrêté d'exporter. Et beaucoup de pays africains étaient en difficulté. Donc je pense que ce sont des questions auxquelles il va falloir porter beaucoup d'attention et dans les jours à venir, parce que évidemment cette situation ne peut pas continuer.
Et donc le constat est réel aussi, la situation actuelle l'impose, l'intelligence artificielle et la digitalisation aujourd'hui sont une réalité. D'ailleurs, ces pratiques peuvent-elles accélérer, à votre avis, M. Makelou, les performances environnementales et aussi sociales des entreprises?
Oui, elles peuvent, mais encore faut-il les facteurs de production, le coût des facteurs de production, il faut les réduire. Comment vous pouvez penser déjà à l'intelligence artificielle et à la révolution numérique, la quatrième révolution industrielle, alors que vous n'avez pas accès à de l'électricité, c'est pas possible, à de l'énergie, c'est pas possible. Et l'intelligence artificielle, on voit les montants, les sommes folles, stratosphériques qu'on met dans les infrastructures d'intelligence artificielle, c'est effarant. Donc, il faut investir dans cela, mais il faut d'abord investir dans les ressources humaines, à mon avis d'abord, mais aussi dans les infrastructures physiques. Et tout cela, il faut quand même favoriser les investissements. Et je ne dis pas les investissements extérieurs, je dis d'abord les investisseurs nationaux, il faut qu'eux, ils y croient d'abord. Et cela demande quand même une visibilité des politiques publiques. Il faut quand même le cadre réglementaire, le cadre judiciaire pour les investissements soit bien défini, bien clair, et que cela va quand même et l'accès au capital. Et puis, bon, là, une réglementation favorable. Et si on réduit évidemment la réglementation, c'est-à-dire tout ce qui concerne des freins à la bureaucratie. Mais avec la numérisation encore, je pense que c'est une possibilité d'améliorer les relations entre les usagers et l'administration. Il faut que l'administration soit au service des usagers, mais il faut que l'information publique soit disponible. Et je pense qu'avec la numérisation, c'est une opportunité encore de faire en sorte que, évidemment, les entreprises, les ménages et les citoyens puissent avoir accès à cette information, et c'est ce qui va permettre de développer le secteur privé dans nos différents pays.
Et fort de cela, M. Makelou, la coopération entre secteur public, secteur privé et société civile constitue-t-elle aujourd'hui la clé peut-être d'une RSE efficace ?
Absolument, indispensable. Indispensable parce que vous avez les différents aspects, les différents éléments de la société. Et cet aspect multiforme permet quand même de prendre les différents aspects en compte. Si vous avez le secteur étatique, le secteur privé et la société civile, dans un dialogue qui renforce la réglementation, qui suit aussi la mise en œuvre des politiques publiques, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des bons textes, il s'agit de les mettre en œuvre. Et souvent, les plus beaux textes sont difficiles à mettre en œuvre, donc il va falloir les corriger, les mettre à jour et puis quand même les adapter au contexte Et je pense que quand les dirigeants sont à l'écoute et quand le secteur privé est motivé et quand la société joue son rôle de plaidoyer et de suivi évaluation, je pense que ça permet à chacun de jouer sa partition et ça permet au pays d'avancer dans la bonne voie.
Au pays d'avancer dans la bonne voie et toujours dans la voie de la dynamique aussi de l'entreprise africaine face aux grandes transformations durables. C'était donc la deuxième partie de cette émission Planet Business consacrée à la RSE et aussi surtout à l'évolution de cette RSE dans plusieurs aspects pour l'Afrique. Notre invité toujours, M. Modibo Makalou. Merci encore, M. Makalou. On se donne rendez-vous tout à l'heure avec nos auditeurs pour ce prochain numéro pour cette troisième partie consacrée toujours à la RSE, mais cette fois-ci sur quelle Afrique durable à l'horizon 2035. Merci encore à vous, M. Makalou.
Je vous en prie.